Chapitre 2. Fureur d'obliger. Camilla, dès qu'elle avait aperçu Mandelbert, avait senti la plus vive émotion. Elle ne savait si son voyage avait pour objet de se réconcilier avec elle ou de lui rendre ses lettres et de se séparer pour toujours. Son premier mouvement en le voyant fut de se retirer. Mais bientôt, retenue par un sentiment plus doux, elle se représenta combien de mots leur seraient épargnés à tous deux s'ils pouvaient avoir ensemble un entretien. Elle resta donc à sa place, tenant les yeux constamment fixés vers la rivière et n'imaginant guère qu'elle était l'objet de l'attention publique. Cependant, Mrs. Mittin s'apercevait bien qu'elles étaient observées. Camilla, sans faire attention à ses remarques, prêtait l'oreille à quelque bruit qui semblait s'approcher d'elle. Enfin, elle entendit les éclats bruyants d'une voix inconnue, vit la porte s'ouvrir avec violence et trois hommes bien mis entrer de force dans le petit endroit où elles étaient. M. Halder était à la tête de ce triumvirat. C'était le protecteur de Gert le parfumeur. Car, quoique celui-ci fût fort au-dessus de lui par la décence et la bonne conduite, Halder était son supérieur par la décence et la fortune. Le second personnage avait, à tous égards, moins de droits encore à la considération. C'était un père du royaume. Il avait une fille mariée. Il aurait pu, par son âge, être le grand-père du jeune Halder. Quant à leur fortune, on l'estimait égale, quoique celle du Lord Valers fût encombrée d'hypothèques. Le troisième était un jeune homme d'une physionomie sérieuse mais agréable. Il avait l'air de ne venir là que par complaisance pour les deux autres. Quand Halder, poussé par les assertions facétieuses de Gert, avait proposé cette visite et que Lord Valers, épris de la beauté du jeune et charmant objet de la gageure, l'avait appuyé, c'était le seul qui se fût déclaré son défenseur. Halder, en entrant avec fracas, s'adresse tout à coup à Camilla, l'épouvante et l'offense à la fois à tel point qu'elle saisit promptement le bras de Mrs. Mittin et, d'un air alarmé, « Retournons, dit-elle, à la maison, Mrs. Mittin, retournons sur le champ. » Ses paroles étaient simples, mais la manière dont elles furent prononcées en imposa tellement au jeune Hadley qu'il se retira d'un air respectueux. Mais Lord Verbeuse se plaça devant la porte pour interdire le passage à Camilla. Le jeune homme, qui s'était déjà déclaré son défenseur, dit tout haut, « Milord, faites place, je vous prie. » En même temps, il offrit sa main à Camilla, qui, pâle, épouvantée, redoutant les secours de tous et de chacun d'eux, retourna vers la fenêtre dans l'intention d'appeler Edgar, qu'elle croyait encore sur le rivage. Mais le père, quittant la porte et s'avançant lentement, protesta qu'il n'avait nulle intention d'effrayer la jeune lady, qu'il ne voulait l'arrêter qu'afin d'avoir le temps de faire approcher sa voiture. Cependant, Edgar ne paraissait pas et la peur est impatiente. Camilla le crut parti, se crut abandonné. Et, ne connaissant aucun des deux jeunes cavaliers, les craignant également tous deux, elle penchait pour Lord Verus quand Edgar entra. Le plaisir qu'elle eut à le voir brilla dans ses yeux. À la manière dont il fut reçu, Halder vit pourquoi lui-même avait été mal reçu. L'autre jeune homme supposa que c'était son frère. Mais Lord Valers parut si mortifié qu'il ne fallait que le voir en ce moment pour suspecter les offres de service qu'il venait de lui faire. Camilla prit la main d'Edgar et, sans proférer une seule parole, ils sortirent, accompagnés de Mrs. Mittin. Le troisième jeune homme, dont le cœur était encore assez pur pour croire à l'innocence, fut très fâché de se trouver compromis dans une démarche aussi choquante et surtout de ne pas avoir fait connaître ses motifs particuliers. La sensibilité de Lord Valers se bornait à regretter la jeune et belle créature qui s'éloignait. Halder accabla l'un et l'autre d'un torrent de railleries qu'il croyait très spirituelles parce qu'elles étaient très bruyantes. Le troisième jeune homme, fier de la pureté de ses sentiments, voulut représenter celle de ses intentions. On lui répondit par des éclats d'une gaieté plus vive encore et d'une incrédulité plus grossière. Cependant, la partie n'était pas égale entre deux hommes dont l'un avait les nerfs aussi délicats qu'irascibles et l'autre qu'aucun accident, aucune sensation n'avait encore averti que les nerfs fissent partie du corps humain. À mesure que les fibres s'irritaient dans l'un, ils devenaient plus rigides dans l'autre. Il s'ensuivit un défi chevaleresque qui fut reçu avec le rire brutal d'un homme qui se croit au-dessus du danger. Edgar et Camilla continuèrent de marcher, gardant un silence pénible que ni l'un ni l'autre n'osaient rompre. Tous deux désirant de pouvoir entrer en explication, mais tous deux blessés de l'aventure qui venait de se passer, Edgar attendait l'absence de Mrs. Mitin pour faire sentir à Camilla combien une telle société la compromettait, et Camilla, qui tremblait encore, n'avait pas la force d'entamer la conversation. La volubilité de Mrs. Mitin contrastait singulièrement avec leur silence. Elle ne cessait de se vanter de la manière dont elle avait contenu, réprimé, l'insolence de ces trois hommes. Tout ce que Camilla venait de souffrir, quoique dans le moment son imagination lui peignît cet événement comme un des plus terribles de sa vie, n'était rien en comparaison de ce qu'elle appréhendait encore. La distance que le silence d'Edgar mettait entre elle et lui, l'incertitude de ses intentions, les soupçons d'une rupture projetée, le dessein pénible qu'elle avait fondé de lui rendre sa liberté, dessein qu'elle croyait nécessaire d'exécuter, l'incertitude de savoir si cette tentative hardie le lui ramènerait avec sa tendresse ou précipiterait sa retraite, toutes ces idées se succédaient rapidement dans son esprit et lui causaient la plus grande agitation. Quand ils arrivèrent à la maison, Edgar lui demanda s'il pouvait espérer d'être présenté comme ami de la famille à Mistress Burlington. Cette demande lui rendit l'espoir. Ses yeux, encore troublés, l'assurèrent qu'elle y consentait. Aussitôt, elle s'informa si Mistress Burlington était chez elle. Le domestique lui répondit que non et lui remit de sa part une lettre qu'elle prit avec un air d'inquiétude, ne sachant si Mandelbert devait entrer ou non. Incertitude dont elle fut délivrée par l'officieuse Mistress Mitin qui lui dit « Allons, allons, entrons et préparons la salle en attendant que Mistress Burlington revienne, car je vois que rien n'est ici rangé comme il devrait l'être. » Ils entrèrent tous trois et Mistress Mitin, qui, disait-elle, apercevait mille moyens d'obliger et de servir Mistress Burlington, mit aussitôt la main à l'œuvre en attendant son retour et, par zèle, dérangea tout ce qui se trouvait dans les deux appartements et dans les chambres au-dessus. Camilla, confuse, considérait sa lettre en silence et ne devinait pas ce que Mistress Burlington pouvait lui mander, étant si près de la revoir. Rien n'est plus propre à donner du courage que de voir de la timidité dans son adversaire. Edgar reprit son assurance et se sentit en état de faire à Camilla les demandes qu'il s'était proposé de lui faire. « Vous attendez pour lire votre lettre que je sois parti, lui dit-il. Il faut donc que je m'en aille. Mais avant de vous quitter, souffrez que je remplisse encore à votre égard un devoir que vous m'avez permis quelquefois. Je dois vous avouer avec sincérité mes craintes sur l'événement de ce matin. » Au commencement de ce discours, elle avait rompu le cachet de sa lettre. Mais à la fin, elle fut trop agitée pour être en état de la lire. « Ce silence, lui dit-il avec un sourire pénible, m'accuse-t-il de trop d'assurance ou me punit-il de quelque témérité ?»« Ni l'un ni l'autre, lui répondit-elle. Je vous écoute avec attention. Je tâcherai de n'en pas abuser. Vous savez déjà tout ce que je pourrais vous dire concernant Mistress Burlington. Je m'étonne peu de votre prompte admiration pour elle, mais je crains beaucoup que vous n'ayez pas lieu de l'estimer toujours. En vous plaçant sous sa protection immédiate, vous avez montré combien nos opinions diffèrent sur cet objet. Mais je n'oublie pas que, si vous avez la bonté de m'entendre, vous n'en êtes pas moins en droit de vous décider d'après vous-même. » Camilla rougit et se fit quelques reproches. La vérité prenant le langage de la douceur, la ramena sur le champ à la raison, et la raison ne tarda point à lui représenter comme imprudente une démarche si contraire, sous tous les rapports, au vœu de la personne dont l'approbation était essentielle à son bonheur. Edgar avait fait une pause, et pendant ce temps-là, chacune des impulsions que recevait Camilla la portait à reconnaître son tort avec candeur. Mais sa situation vis-à-vis de lui, le projet qu'il avait conçu de la fuir, selon le rapport de Jacob, les lettres de Sir Sedley qu'il retenait encore sans demander aucune explication, tous ces motifs agissaient puissamment sur son esprit, abattaient son courage et la tenaient en silence. Elle le laissa continuer. « Je ne dirai donc rien de plus sur ce sujet. Puissent les craintes que j'en ai conçues être parfaitement vaines. » Ces mots alarmèrent Camilla sur l'amitié vive et nouvelle qu'elle ressentait pour Mistress Burlington. Le sentiment de son erreur, en diminuant sa confiance pour elle-même, ne pouvait s'étendre jusqu'à Mistress Burlington, qu'elle croyait exempte de blâme. Elle en fit donc l'éloge avec chaleur. Son agitation la rendit même éloquente. Edgar écoutait attentivement. « Je souhaite qu'elle mérite toujours ce zèle généreux, » s'écria-t-il. « Mais la personne qui vient de sortir de la chambre... »« Vous ne voulez sûrement pas la confondre avec Mistress Burlington ?» Vous n'imaginez pas que je puisse avoir pour elle les mêmes égards, ni même aucun autre sentiment que cette bienveillance générale qu'on a pour toutes les personnes, de quelque classe qu'elles soient, qui nous montrent de bonnes intentions. En ceci, du moins, dit Edgar avec un léger sourire, nous sommes donc d'accord. Non, je ne veux pas faire un parallèle aussi désobligeant pour votre belle amie. Mais vous représentez... Me pardonnerez-vous cette expression ? Qu'il ne vous convenait point de paraître en public avec une personne qui ne peut vous concilier le respect qu'on vous doit. Je n'avais aucune idée de paraître en public. Je me promenais seulement pour voir la ville et pour amuser le temps que la présence de cette personne me rendait plus pénible à la maison pendant l'absence de Mistress Burlington. Cette réponse simple, innocente et précise, adoucit aussitôt dans Edgar toute la sévérité de son jugement. Il la remercia très affectueusement et se leva. Il s'approchait d'elle sans trop savoir pourquoi, quand Mistress Mitin entra brusquement et s'écria « Eh bien, ma chère, vous ne devineriez jamais tout ce que j'ai fait depuis que je vous ai quittée. » Alors elle entra dans un détail de tasses, de soucoupes, de cuillers qu'elle avait rassemblées, assorties, préparées pour le thé. Pendant ce discours, Camilla, rougissant de son peu de courage, prit intérieurement la ferme résolution de profiter du premier instant de tête-à-tête pour rendre à Mandelbert sa liberté, afin qu'elle pût encore en recevoir l'hommage ou renoncer à lui pour toujours. Elle se crut alors capable de soutenir l'un ou l'autre parti. Cependant, elle ne se sentait tant de force que depuis que le ton d'Edgar et ses regards adoucis l'avaient persuadée qu'elle n'avait rien à craindre de l'alternative. Mistress Mitin sortit pour se livrer encore à l'empressement officieux qui l'agitait. Tous les deux, empressés de parler, entamèrent au même instant la conversation. Les premiers mots de Camilla furent ceux-ci. « J'ai quelque chose à vous dire. » Mais sa voix baissa tout à coup. Edgar n'avait entendu que sa voix et non ses paroles. Il commença donc lui-même. « Cette bonne femme, dit-il, semble atteinte de la manie d'obliger, sans toutefois nuire à ses intérêts. Elle se flatte sûrement de quelques récompenses. Mais je pense que... »« Nous parlerons d'elle une autre fois, dit en l'interrompant Camilla. Permettez que je vous demande à présent si vous avez brûlé ces lettres insensées que je vous ai remises. » À ces mots, une espèce de nuage couvrit à l'instant les yeux d'Edgar. Son cœur ressentit de nouveau l'atteinte la plus douloureuse qu'il eût jamais éprouvée. Ce souvenir lui représenta Camilla comme une femme qui, n'étant plus sans artifice, était capable de se jouer de la crédulité d'un homme pendant qu'elle songeait à traiter sérieusement avec un autre. « Non, mademoiselle, lui dit-il avec dignité, je me serais bien gardé de prendre cette liberté. J'ai pensé qu'une partie de la correspondance devait être conservée pour éclaircir l'autre. » Camilla se sentit piquée par cette réplique et répondit en tremblant « Rendez-les-moi donc, s'il vous plaît, et j'aurai soin de faire justice à toutes à la fois. Cependant... » « Et pensez-vous, reprit Edgar, qu'il vous soit permis de les brûler ? Est-il un homme assez philosophe, ou plutôt assez insensible, pour renoncer à des marques d'estime après les avoir obtenues ? Oh, Camilla, je sens du moins que jamais je ne pourrais être cet homme. » Blessée par cette question, qui lui parut cruelle, quoiqu'elle fût adoucie par la dernière phrase, « Je n'ai pas le droit de parler de philosophie, reprit-elle, mais quant à l'insensibilité, quel est l'homme qui puisse en montrer davantage ? Cependant, permettez-moi de saisir cette occasion. » Un domestique, ouvrant la porte, dit que sa maîtresse attendait réponse à sa lettre. Camilla fut charmée d'une interruption qui l'empêcha de prononcer trop vivement une phrase qui, pour produire l'effet désiré, devait être prononcée avec douceur. Elle dit au domestique qu'elle allait répondre, lui demanda des plumes, de l'encre et s'approcha de la fenêtre pour lire la lettre en saluant Edgar lorsqu'elle passa devant lui. Je vous ai mis en colère, lui dit-il quand le laquais fut sorti. Je m'en veux d'avoir pu vous causer un moment de peine. Mais, Camilla, mettez-vous à ma place. Ressentez un moment la plaie cruelle que vous m'avez faite. Vous ne connaissez pas ce trouble de l'âme, ce passage subi et terrible, du bonheur à l'incertitude, du calme au malheur. Camilla se sentit touchée. Cependant, elle continuait de lire sa lettre, ou plutôt, elle en prononçait les mots sans les comprendre, sans même chercher à les entendre. Il la suivit et lui dit tendrement « Vous ai-je offensé sans espoir de pardon ? Et ce voyage, dont j'aimais à me promettre le retour si cher de mes espérances, ne mettra-t-il point un terme à mes inquiétudes, à mes souffrances, à mes chagrins profonds ?» Il s'arrêta. Le domestique venait de rentrer avec de l'encre et des plumes. L'interruption était critique. Il dit en balbutiant qu'il ne voulait pas l'empêcher d'écrire et se retira dans un grand désordre. En sortant, il laissa chez le portier son billet de visite pour Mrs. Burlington, le chargea de lui présenter son respect et de lui dire qu'il aurait l'honneur de revenir la voir dans la soirée. Edgar se rappela trop tard ses intentions et le but de son voyage. L'aveu qui venait de lui échapper avait été attentivement recueilli par Camilla. Bientôt, il pénétra jusqu'à son cœur, y porta l'enchantement, lui rendit sa vivacité première, en bannit tout autre sentiment que le plaisir, la confiance et la joie.